Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Y a-t-il eu un raté judiciaire dans le Gers? Vous allez voir que le suspect dans la disparition de Liana était visé par une plainte pour viol sur mineur déposée l'été dernier, mais il n'avait toujours pas été entendu par la justice. On va tout vous expliquer. Les peines continuent de tomber à Paris après les violences de samedi dernier. Un policier en civil de 24 ans a passé la nuit en prison. Et les médecins alertent ce matin sur la santé des jeunes en France. Ils sont adolescents et ils ont déjà des maladies de vieux.
On découvre le profil de plus en plus inquiétant ce matin du suspect dans la disparition de Liana.
Oui, on savait que cet homme de 41 ans avait fait l'objet d'un signalement, c'était en 2021, pour des comportements inappropriés sur une élève à l'époque où il était agent de maintenance dans un lycée du Gers. Plus récemment, en août, donc l'année dernière, il était visé par une plainte pour viol déposée par la famille d'une fille de 10 ans. Une amie, en fait, un de ses propres filles, qui raconte avoir été violée à plusieurs reprises au domicile du suspect. La plainte a donc été déposée en août, mais le suspect n'avait toujours pas été entendu par la justice dans cette affaire. Et ça, c'est incompréhensible pour la mère de la fille en question. Elle témoigne sur BFM TV, vous allez l'entendre. Alors il faut que vous tendiez l'oreille parce que sa voix a été modifiée, écoutez.
Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit, il essaye de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, qu'il a fait de l'attouchement du sein, il voulait jouer le jeu de papa et de maman. Je dis que si le justice il était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana n'est pas disparu. Ça m'a mis en colère. Ils ont été où là? Pendant un an. Pourquoi ils n'ont pas allé voir? Pourquoi ils n'ont pas été allés questionner? Pourquoi ça n'était pas fait plus vite?
C'est la question qui se pose ce matin. Jean-Marie Forquez, vous êtes en direct de Fleurance, donc dans le Gers, là où a disparu la jeune Liana, et vous nous dites qu'en fait, cette plainte est passée de main en main depuis l'été dernier.
Oui, c'est ça, Quentin. Une plainte déposée à la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, c'est près de Toulouse. Une plainte déposée très exactement en août 2025. Ce n'est qu'en octobre 2025 que les gendarmes avertissent le parquet de Toulouse, qui est compétent, et qui se dessaisit deux semaines plus tard et transmet au parquet d'Auch. La procureure n'en prend connaissance qu'en décembre 2025 et c'est pas fini. Les gendarmes de Lectoure ne sont saisis de l'affaire qu'en janvier dernier. Depuis, l'homme n'a jamais été convoqué par les gendarmes, jamais convoqué, jamais entendu, jamais auditionné, jamais inquiété pendant près de 9 mois. Ce matin, évidemment, ici, sur la place à Fleurance, c'est la stupéfaction. Les habitants ne comprennent absolument pas. Ils se disent, mais que vraiment, vraiment, qu'a fait cette justice?
Jean-Marie Forquez, en direct de Fleurance, donc ce matin dans le Gers, où 180 gendarmes sont toujours déployés dans les environs de cette petite ville pour une nouvelle journée de recherche et tenter de retrouver la jeune Liana. On en parlait un petit peu plus tôt ce matin. L'évêque de Carcassonne assure, là, il y a quelques minutes, dans un message vidéo, qu'il n'a jamais été contacté à propos de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, au lendemain de la diffusion d'une émission télé durant laquelle un prêtre, quelqu'un qui se présente comme prêtre de son diocèse, prétendait avoir reçu les confessions de l'homme toujours recherché, des confessions qui dateraient de l'année 2022. Les sanctions continuent de tomber à Paris après les violences du week-end dernier dans la foulée du sacre du PSG. Les comparutions immédiates vont se poursuivre là encore aujourd'hui. 23 hommes étaient jugés hier, 3 ont été relaxés. La plupart en fait écopent de peines de prison avec sursis, Julie Brault.
Oui, tous encore vêtus d'un maillot du PSG, les prévenus défilent et se ressemblent. Tous plaident l'innocence la plus pure. J'étais simplement là pour faire la fête. J'ai été pris dans la ferveur d'un attroupement ou encore, je n'ai pas réalisé la gravité de mes actes, disent-ils. Et pourtant, beaucoup d'entre eux sont reconnus coupables de violences, notamment à l'encontre des policiers. Mais je ne savais pas que les mortiers d'artifice étaient interdits, se défend un jeune homme qui a directement visé les forces de l'ordre avec. Je ne pensais pas que c'était un magasin, tant un autre qui a volé 73 bouteilles d'alcool dans un supermarché saccagé. Alors si certains ont pris conscience de la gravité de leurs actes, notamment en présentant des excuses, d'autres sont ressortis du tribunal, fiers et sourires aux lèvres, en se filmant aux côtés de leurs amis.
Et finalement, la peine la plus lourde est prononcée à l'encontre d'un policier en civil de 24 ans qui a braqué son arme de service sur deux personnes et qui est condamné à 2 ans de prison, dont 10 mois avec sursis. Et alors, le bilan de ce qui normalement devait être une fête s'est alourdi à 3 morts. Et à ça s'ajoutent 2 enquêtes de la police des polices à Bobigny, à Fontenay-sous-Bois, où des jeunes de 13 et 14 ans ont été blessés aux yeux, probablement par des tirs de LBD. Je vous le disais, il y a cette alerte ce matin des médecins. Ils sont réunis en congrès en ce moment à Paris. Alerte sur la santé de la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent que de plus en plus de jeunes ont ce qu'ils appellent des maladies de vieux, comme du diabète de type 2. La faute au manque de sport, à la sédentarité, à la malbouffe aussi. La preuve écoutée avec Antonin Audion pour RMC.
La commande est la même chaque semaine dans ce fast-food pour Hakim, collégien de 14 ans.
J'ai pris un menu ketchup, petites frites, cheeseburger, cheese curry.
Comme lui, Winston mange dans des enseignes de restauration rapide 1 à 2 fois par semaine et il est bien conscient de l'impact que ça a sur sa santé.
Mon hygiène de vie, non, c'est pas tout ce que je mange. C'est vraiment trop sucré, trop salé.
Selon les médecins, la sédentarité peut aussi accélérer la survenue de certaines maladies qui arrivent normalement beaucoup plus tard dans la vie. Niall a 18 ans et elle remarque au quotidien qu'elle ne fait pas assez de sport.
Je pense qu'avec les écrans, on est de plus en plus sédentaire et même quand on va à l'école, le sport c'est 1 fois par semaine au lycée et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de faire plus dans la semaine.
Pourtant, c'est essentiel.
Depuis la naissance jusqu'à l'EHPAD, nous ne bougeons pas assez.
François Carré est cardiologue, président du collectif pour une France en forme.
Nos collégiens ont une pression artérielle plus élevée que les collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont un taux de cholestérol plus élevé que les collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont un taux de sucre dans le sang plus élevé. L'infarctus, on le faisait à 45 ans. On le fait avant 30 ans aujourd'hui.
Mais il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Les médecins conseillent de faire 1 heure d'activité physique par jour.
C'est ce matin qu'un hommage national sera rendu au philosophe et sociologue Edgar Morin, décédé la semaine dernière à l'âge de 104 ans, qualifié de penseur du siècle par Emmanuel Macron qui va présider la cérémonie ce matin aux Invalides à Paris. Au lendemain de sa visite à Clairefontaine, où il a souhaité bonne chance à l'équipe de France de football qui est désormais au complet, les Bleus partiront d'ailleurs dans la journée à Nantes où ils joueront demain leur premier match de préparation au Mondial, sera contre la Côte d'Ivoire. Et alors c'est la nuit prochaine que va commencer la grande finale de NBA aux États-Unis qu'on suit avec grande attention cette année parce qu'elle va opposer les Knicks de New York aux Spurs de San Antonio. San Antonio, c'est l'équipe de Victor Wembanyama qui rêve d'un premier titre. Il l'a dit hier à David Alias.
Ambitieux et concentré, c'est ainsi qu'est apparu Victor Wembanyama juste après son coach en conférence de presse avant les finales de NBA, prêt à défier les Knicks de New York.
C'est une grande équipe avec des gars expérimentés. Ils ne sont pas là par hasard, mais grâce à un travail acharné ces dernières années, ils sont là où ils doivent être et ils auront très faim.
Les Spurs se sont également allés chercher ces finales de NBA au terme d'une série éprouvante de 7 matchs contre Oklahoma City, série pendant laquelle le meilleur défenseur de la saison a été brillant. Ils peinent encore à réaliser.
Tout ça m'est tombé sur les 5 dernières secondes du 4e carton du match 7. C'est aussi un vrai challenge de gérer toutes ces émotions, c'est énorme.
Car Mitch Johnson, son entraîneur, n'oublie pas le chemin parcouru par le meilleur joueur des finales de conférence Ouest.
Il a évolué physiquement par rapport à son arrivée à 19 ans. Il fallait juste laisser le temps à son corps d'évoluer, progresser et laisser le temps à ses coéquipiers d'évoluer aussi. Je pense que ses coéquipiers ont grandi avec lui.
Rookie de l'année pour sa première saison en NBA All-Star cette année, Victor Wembanyama aura l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du championnat. Premier acte dans la nuit de mercredi à jeudi.
Première équipe à 4 victoires, c'est ça la règle, c'est la première équipe à 4 victoires qui est sacrée, autrement dit ça peut durer jusqu'à 2 semaines cette grande finale de NBA. Et puis il y aura la suite des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros avec 3 Italiens chez les messieurs, ça veut dire qu'il y en aura au moins un en demi-finale pour rejoindre l'Allemand Alexander Zverev et le Tchèque Jakub Mencik qui se sont qualifiés hier.
C'était le journal de Quentin Vinet, les 8h09 lors de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel, le chiffre, la contrebande de cigarettes bat tous les records en France et en fait ça coûte cher.
Absolument Apolline, en 2025 pour la première fois, plus d'une cigarette sur deux consommée ne provient pas du réseau local légal des buralistes. C'est un rapport que publie ce matin le cabinet de conseil KPMG qui le dit. 53,6% exactement des cigarettes consommées dans le pays, ça fait quand même 26,5 milliards de cigarettes, ont été achetées en dehors de ce réseau national. À elle seule, la France concentre près de 40% des volumes de cigarettes illicites consommées en Europe, à savoir contrebande plus contrefaçon. C'est des volumes qui ont été multipliés par 3,5 en 20 ans. C'est ce marché-là qui connaît la progression la plus inquiétante, ce marché de la contrefaçon. Une cigarette sur 5 consommée est désormais contrefaite. C'est un niveau 4 fois plus élevé, là encore, que la moyenne de l'Union européenne. Donc c'est bien un phénomène français. Et il faut rappeler que, 1, c'est effectivement extrêmement nocif et dangereux, ces cigarettes de contrebande, en plus de la nocivité traditionnelle du tabac, et c'est surtout que ces trafics privent l'État de plus de 10 milliards d'euros de recettes.
Comment on explique cette dérive à ce point, jusqu'à une sur deux aujourd'hui?
Ouais. Alors, cette dérive française, c'est d'abord la hausse des taxes, l'industrialisation de la contrefaçon, c'est la situation géographique de la France avec toutes ses frontières, la vente sur les réseaux sociaux qui a explosé, la multiplication des points de vente clandestins, et puis comme le montre une autre étude publiée par le think tank Le Millénaire, eh bien c'est l'incapacité aussi des politiques publiques en France à tarir la demande en négligeant la prévention, en refusant les alternatives qui permettraient de sortir du tabac et qui fonctionnent à l'étranger. En Suède, en Nouvelle-Zélande, au Japon, on est prêt à explorer plus qu'en France les sachets de nicotine oraux, le vapotage ou le tabac chauffé sans combustion. Et puis, il faut rappeler qu'au Royaume-Uni, on a pris une mesure radicale. On a interdit la vente de tabac à toutes les personnes qui étaient nées après 2008. Bah, pourquoi pas des mesures aussi radicales?
Et avec cette année qui va évoluer chaque année en Angleterre pour essayer d'avoir effectivement une génération zéro tabac. Allez, bonne nouvelle du côté des chiffres.
Allez, on enquille les records, Apolline.
Bon,
allez, le
ça gazole. Redescend.
2,03 € le litre, on est au plus bas depuis 2 mois et demi. Le samplon 95, ça y est, on a cassé la barre des 2 €, 1,98. Là, on est au plus bas depuis 1 mois. Mais, petite tension sur le pétrole, hein, $96.80 le baril.
Il remonte.
C'est 5 dollars de hausse en 5 jours. Et puis 4 euros de hausse aussi en 5 jours pour le gaz. Donc, à la pompe, c'est rassurant.
Au baril. Un peu moins. Merci Emmanuel, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange revient évidemment pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. J'interrogerai après les violences qui ont émaillé la soirée de victoire du PSG samedi soir. Juste après, vous le savez, on poursuit notre exploration de l'Amérique de Donald Trump à quelques jours du début du Mondial. Et ce matin, nous serons donc à 8h50 en direct du Texas avec l'envoyé spécial d'RMC, le Texas où il fait déjà très très chaud, vous l'entendrez. Allez, à tout de suite, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud, 8h15, il est avec nous, Arnaud de Manche.
Bonjour, tous les jours, voilà, tous les jours, c'est mon petit bonjour à vous, Apolline, à vous les amis. Je salue tout le monde sauf Géraldine Demory. Notre Miss Météo qui fait n'importe quoi. On a perdu 15 degrés en une semaine, Géraldine.
Ah, il faisait trop chaud.
Vous êtes bourré, c'est ça. Vous jouez avec le thermostat, c'est Philippe Catherine. Et je coupe le chaud. Et je remets le chaud. Alors, tout le monde se pose la même question à la maison. Pourquoi j'ai acheté un climatiseur énorme qui prend la moitié de ma chambre alors que j'ai nulle part où le ranger le reste du temps?
Ça sent le vrai.
Ça sent le vécu. Hein. Ouais, je l'ai fait. Allez, on va parler d'un sujet plus léger. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès va-t-elle être relancée? Hier, il y avait un prêtre, le père Marc, sur M6, qui a révélé que Dupont de Ligonnès aurait séjourné dans un monastère dans l'Aude en 2022 et il lui aurait avoué avoir tué sa famille lors d'une confession. Et l'Église a mis 4 ans à réagir.
Je suis obligée dans ce moment léger de rajouter un petit drame.
Oui.
C'est que l'évêque a démenti.
L'évêque a démenti.
Oui, ce matin, l'évêque a parlé du père Marc comme d'un homme. Donc on ne sait même pas s'il est vraiment prêt.
On ne sait pas s'il est vraiment prêt. Ça ne me surprend pas tellement parce que j'avais la suite.
Vous aviez un petit doute.
C'est-à-dire que le mec a Dupont de Ligonnès sur son monastère, l'Église met 4 ans à réagir et le gars prévient pas la police. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu la police, père Marc?
Sinon, ils auraient découvert les enfants tout nus qui étaient dans la cave. Non, mais ça va parce que maintenant, ils sont grands.
Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ce témoignage est peut-être un peu bidonné. Il semblerait que nous en ayons un nouveau au standard. Salut Marc, comment ça va? Bonjour Jack Lang. Oui, vous savez, monsieur Courbet, avec Marc, nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai rencontré chez Woody Allen, avec Roman Polanski, Michel Fourniret et Émile Louis. Dis-moi Marc, t'as pas le numéro de Xav? J'ai pas de nouvelles depuis 3 semaines à peu près. En tout cas, depuis hier soir, Vincent Bolloré tourne en rond dans son bureau. Il faut le retrouver, Dupont de Ligonnès. Je veux absolument lui confier une émission à ce gars-là. face à Ligonnès.
C'est bon ça. La Jamaïque a-t-elle des réserves de pétrole? Question après ces analyses effectuées au large de la côte sud qui ont mis en évidence la présence d'hydrocarbures. Arnaud,
alors, quelques conseils aux Jamaïcains. Alors déjà, arrêtez avec le reggaeton H24, ça ouf. Et deuxième conseil, ne dites pas que vous avez du pétrole, bande de dingue. Parce que vous, vous êtes là... Ouais, faut partager, faut un peu donner, faut respecter le grand tout. Vous avez pas vu les infos depuis ces 100 dernières années? Parce que là, il y a Donald Trump qui est déjà en route pour vous expliquer les bienfaits de la démocratie. Hein. Nous allons attaquer la Jamaïque et son président, Pierre-Paul Jacques. Bad guy, very bad guy, Pierre-Paul Jacques. Il sait pas jouer autre chose que du reggae. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Est-ce que Élise Dorjan, elle connaît Pierre-Paul Jacques? Parce qu'hier, elle avait pas de Jackie.
Bon,
Pierre-Paul Jacques, bad guy.
L'air.
Bad guy. Nous allons faire de la Jamaïque le 54e état des États-Unis. 51e, président. Non, on a déjà le Venezuela, le Groenland et Lolita Island.
Ah oui.
À propos, il faut bombarder Lolita Island. Il faut bombarder Lolita Island. Il y a du pétrole là-bas? Non, il y a des vidéos. Allez hop, ça dégage.
Alors, Marine Tondelier propose de créer une Assemblée nationale des enfants.
Oui. Des cris, des pleurs, des caprices, de l'immaturité, incapable de se concentrer plus de 5 minutes. Bref, ça va faire doublon avec la vraie. Et comment il va faire Gabriel Attal pour siéger aux deux assemblées en même temps?
Excellente question, comment il va faire?
Bravo en tout cas, ça coûtera moins cher en notes de frais. Hein, un paquet de Chocapic, un Happy Meal et c'est plié. Et puis pour les frais de costume, bon, c'est vrai qu'il change de taille assez rapidement. Mais François Hollande aussi, puis on a fait avec. Qu'est-ce que ça va être les revendications des enfants? Eh ben nous on veut deux desserts à la cantine et on veut que les policiers, eh ben c'est la patte patrouille. Non les enfants, allez, on se concentre, on demande des choses intelligentes. Eh ben on veut plus se faire tripoter dans le périscolaire parisien. Oui, on va voir ce qu'on peut faire pour la patte patrouille. On va voir. Ceci dit, alors les enfants qui deviennent députés, c'est une bonne situation pour eux, c'est un bon job. Attention quand même au conflit à la maison, hein. Tais-toi! Tu viens dîner!
Mais maman, je suis en train de travailler sur le projet des lois transpartisans sur l'encadrement des loyers dans les villes à forte tension démographique.
Tais-toi, tu descends!
J'active le 49.3!
Et ils apprennent vite, hein, c'est tout. Alors, il y a peut-être un conflit d'intérêt pour Marine Tondelier parce qu'elle propose des jobs en or pour les enfants. Députée, c'est 7000 balles par mois, c'est bien. Pendant ce temps-là, elle est enceinte. Voilà, il est pas né, le môme. Il a déjà un super bon job de garantie. C'est le David Hallyday de la politique. Bravo, bravo, Madame Tondelier, bravo! On avait les Nepo Babies, maintenant on a les Nepo Fœtus. C'est formidable. Tiens, alors je termine sur une anecdote historique. On a déjà élu un enfant à l'Assemblée nationale. C'est absolument authentique. Il était même venu témoigner à RMC. Mais je ne suis pas un enfant, je suis Éric Ciotti, le maire de Nice. Pardon, monsieur Ciotti. Et à demain.
Comme une plaie. Ah oui. Comme une bleue. Enfin, je sais pas.
On y croit. Et puis, finalement, l'illusion
s'en fane. Entre Jack Lang et Éric Ciotti, j'avoue que vous m'épatez. 8h21, on se retrouve dans un instant sur RMC et sur BFM TV. C'est le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre, Manuel Valls. Salut tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Soupçonné d'avoir enlevé Liana, on apprend qu'il est aussi accusé de viol sur mineur. Le passé de l'homme actuellement en détention provisoire dans le Gers ressurgit. Passé récent puisque cette plainte a été déposée il y a moins d'un an. C'est une autre jeune fille de 10 ans du même village que le suspect qu'il accuse, dévoilent nos confrères de BFM TV. La justice ne l'avait jamais entendu pour cette affaire. Liana, elle, est toujours introuvable. Un policier en prison condamné à 14 mois ferme pour avoir mis en joue des supporters du PSG samedi soir alors qu'il était ivre et hors service. Majorité de sursis pour les autres comparutions immédiates d'hier. Le Koweït ferme son trafic aérien, son aéroport touché par des frappes de drones ce matin. Il y a plusieurs blessés. Plus tôt, l'Iran revendiquait des tirs contre le pays pour cibler des bases américaines. Aucun n'a atteint sa cible selon Washington qui a riposté dans le détroit d'Ormuz. La guerre au Moyen-Orient qui n'empêchera pas Air France KLM de transporter tous ses clients. clients cet été. Cela vaut aussi pour sa filiale Low Cost Transavia, annonce le groupe ce matin. Les tensions sur le carburant, le kérosène, laissaient planer un doute. Une journée aux accents italiens à Roland-Garros aujourd'hui. Trois joueurs italiens sur les courts aujourd'hui pour la suite des quarts de finale. Coboli, Berrettini, Arnaldi. Hier, le désormais favori allemand Zverev s'est qualifié en demi-finale. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Sabalenka va aussi jouer son quart de finale contre la russe Schneider. Tout ça à suivre sur la radio digitale RMC 100% terre battue. Et puis la météo, un temps plus calme aujourd'hui, bien ensoleillé des Pyrénées à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, ce sera plus nuageux avec de la pluie en Bretagne ce matin. Puis cet après-midi, il pleuvra des Pays de la Loire au centre, en Ile-de-France, en Normandie et sur les Hauts-de-France. Côté température de 17 à Rouen jusqu'à 28 à Perpignan, 22 à Bordeaux et 24 à Lyon.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Les violences après la victoire du PSG en disent beaucoup sur l'état du pays. Voilà ce qu'il a écrit et voilà ce qu'il s'apprête sans doute à dire. Il veut un retour de l'ordre républicain. Oui, mais comment? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. De nombreuses questions ce matin sur la justice et sur le maintien de l'ordre. D'abord, évidemment, c'est 890 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, les premières comparutions immédiates, mardi et hier. Quelques peines prononcées de prison, mais la plupart avec sursis. Une seule condamnation à de la prison ferme hier, c'est pour un policier. En l'occurrence, un policier qui était hors service, qui a mis en joue des automobilistes avec son arme, alors qu'il célébrait la victoire du PSG samedi soir. Il a été condamné hier à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. Comment vous lisez ces premières peines qui ont été prononcées et la situation de ce policier?
Que ce pays marche sur la tête. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent se disent donc que, après ces violences inouïes, ces images et surtout ces faits commentés partout dans le monde, puisqu'il s'agissait d'émeutes de violence après la victoire du PSG. Du PSG. Donc le résultat, c'est aucun émeutier en prison et un policier, pour des raisons tout à fait justifiées, qui lui est en prison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en termes de message qui est donné à la société.
En termes de message,
après des
j'imagine
violences répétées, réitérées, puisque l'année dernière déjà, ou lors de la finale entre le Real Madrid et le Liverpool,
au
Stade de France, sans parler des émeutes de 2023. Donc il y a quelque chose qui n'est pas seulement lié évidemment au football, mais qui dit d'un problème majeur dans une partie de la jeunesse. Et aussi de violence de
l'autre. On va y revenir parce que vous dites, et vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux, pour vous, le mal est plus profond. Il dit l'état du pays. Mais quand même, sur cette histoire de policier, on peut aussi comprendre qu'aux yeux de la justice, le fait qu'il soit policier, le fait que ce soit son arme de service, rende la peine plus dure que pour d'autres.
Le débat ne porte pas sur la condamnation concernant ce policier qui a sorti son arme. Il était ivre, il était hors service, et il a menacé. J'ai écouté les témoignages de ceux et de celles qui ont été
mis en jeu.
C'est tout à fait normal. Mais c'est le message général qui est donné à la société. On donne le sentiment qu'on condamne un policier et c'est justifié, mais que ceux qui ont brûlé, cassé, enfin il y a eu des dizaines, des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre, parmi aussi les supporters, on a cassé, il y a eu indirectement ou directement également des morts. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette situation est particulièrement grave, on ne peut pas la nier, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on s'habitue au fond en France à ces faits, inédit, parce que dans les autres pays, ça n'arrive pratiquement pas, et il faut
ou
surtout...
Pas dans cette ampleur. Là, ou pas avec autant de casse.
Et pas avec autant de casse, et pas à chaque fois, et avec le sentiment qu'on s'y prépare. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de force de l'ordre. 9000 policiers à Paris, 22000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que les responsables de l'ordre public, à commencer par le ministre de l'Intérieur, savaient.
Alors prenons justement les choses les unes après l'autre. J'allais dire, cette préparation, Laurent Nunez d'ailleurs, votre successeur lointain au ministère de l'Intérieur, il dit globalement la situation était sous contrôle. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Le mot globalement est à éviter en général, mais parce que je suis d'une très vieille culture et que j'ai déjà un certain âge et que les bilans globalement positifs, ça fait un peu peur. Ça rappelle une phrase de Georges Marchais concernant l'Union soviétique, mais vous l'étiez
pas née, voilà, Pauline de Malherbe. Globalement, voilà.
Non.
Globalement, c'est toujours louche.
Mais lui, il est en charge de l'ordre public. Je sais que le maintien de l'ordre public, c'est un des sujets les plus compliqués à traiter, notamment quand il y a des jeunes dans la rue. Mais ça donne un sentiment, c'est ça qui est le plus terrible, d'impuissance. Or, notre doctrine de maintien de l'ordre sur ce type de fait doit être totalement revisitée. Il faut tout changer, parce qu'au fond, l'idée, c'est il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans les commissariats le soir même. Alors qu'il faut plutôt s'inspirer, par exemple, de la doctrine britannique.
C'est quoi la doctrine britannique ?
Elle agit sur le long terme, c'est-à-dire c'est l'alliance du renseignement, et là je pense qu'il faut des groupes dédiés, capables d'infiltrer ces groupes, c'est l'analyse évidemment des réseaux sociaux, c'est le rôle de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, des enquêtes qui sont forcément plus longues, mais qui donne des résultats. Là, on donne le sentiment de vouloir interpeller tout de suite. On interpelle ceux qui courent le moins vite, ceux qui ont moins d'expérience, souvent des très jeunes, des mineurs, des primo-délinquants, c'est-à-dire qui n'ont pas de casier judiciaire, et ça donne les résultats que l'on connaît en termes de justice, et ça donne donc un sentiment général d'impuissance. Donc, le renseignement, l'exploitation numérique, des enquêtes
l'exploitation
prolongées,
numérique, dites-vous,
des poursuites systématiques, des peines évidemment plus lourdes, voilà ce dont nous devons nous inspirer. Qui est pratiqué dans d'autres pays et notamment en Angleterre.
Parmi les propositions d'efficacité, justement, Bruno Retailleau dit par exemple qu'il faut la reconnaissance faciale. C'est aussi ce que dit Jordan Bardella. Est-ce qu'il faut accepter la reconnaissance faciale sur toutes les caméras ?
Nous vivons dans un monde numérique où nous sommes en permanence filmés par d'autres. D'ailleurs, souvent, les émeutiers eux-mêmes, les casseurs, filment ou les policiers ou ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a une espèce, au fond, de joie, je mets des guillemets évidemment.
De trophée. Rapporté par la vidéo, un trophée. C'était le mot utilisé par Laure Becquiot, procureure de la République.
Donc nous vivons dans ce monde numérique. Donc il faut évidemment utiliser tous les moyens sous contrôle de l'État, parce que nous sommes un État de
donc,
droit.
Donc reconnaissance faciale, pourquoi pas ?
Exploitation numérique, renseignement, enquête prolongée, poursuite systématique pendant plusieurs mois. Parce que les enquêtes, elles sont forcément longues. Là, on a sans doute
pas. Il n'y a aucun bilan. Nous avons fait la demande avec les journalistes d'RMC et de BFM TV de ce qu'il s'est joué il y a un an. Parce qu'il y a un an, au fond, quasiment même contexte et même situation, il y avait eu déjà, après la victoire du PSG, de très lourdes violences ou casses dans Paris. Et à l'époque, d'ailleurs, vous-même, vous aviez à l'époque condamné. Vous aviez dit qu'il fallait sans doute des peines plus fortes. Vous aviez à l'époque, Gérald Darmanin, qui était déjà ministre de la Justice, qui déjà avait dit peut-être qu'il faut d'ailleurs supprimer le sursis et passer directement à des peines de prison. Elles ne sont pas adaptées. Bref, il y avait déjà un certain nombre de points qui avaient été évoqués. Et l'on a demandé, nous, à la justice, au ministère de la Justice, au parquet, un an après, quel était le bilan, après les interpellations, des peines prononcées et des peines exécutées pour les casseurs d'il y a un an. Ce bilan n'a jamais été fait. Il n'y a pas eu ce travail. Il n'a pas été fait, ni par la justice, ni par l'intérieur, ni par personne.
Et là, vous parlez d'un an, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on fait face à ce type de phénomène. Nous l'évoquions il y a un instant. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'où ce sentiment d'impuissance. On s'interroge souvent pourquoi il y a une crise de la démocratie, pourquoi il y a une crise de la politique, pourquoi il y a une crise de la représentation, pourquoi les extrêmes montent. Enfin, tout simplement parce que on donne le sentiment que l'État ne fonctionne pas, en tout cas dysfonctionne. Donc là, il y a un projet de loi qui arrive, qui avait été retardé pour notamment s'attaquer avec des peines plus lourdes à ceux qui utilisent les fameux mortiers, qui sont des armes
qui sont officiellement interdits, hein.
Et qui sont, oui, donc il y a bien un problème à la fois dans la vente.
C'est la loi Riposte que
vous
évoquez.
C'est la loi Riposte, donc celle-ci, elle doit être votée. Il faut une liste des casseurs récidivistes. Il faut donc ces groupes de renseignement dédiés que j'évoquais il y a un instant. Il faut une meilleure coordination du renseignement territorial que moi j'avais remis en place, de la cyber, de la police judiciaire, des responsables de l'ordre public. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que moi-même, je refais ces propositions depuis déjà plusieurs années. C'est que à chaque fois qu'il y a un événement, bah à ce moment-là, tout le monde vient et se précipite pour dire voilà ce qu'il
Emmanuel
faut faire.
Emmanuel Macron dit c'est insupportable, nous ne l'accepterons pas, ras-le-bol, c'est fini. Mais c'est quasiment mots, mot pour mot ce qu'il disait il y a un an.
C'est un papier-collé de ce qu'il a dit, je peux le comprendre, à l'Élysée, accueillant il y a un an déjà la première victoire
déjà.
Du Paris Saint-Germain. Nous avons eu les émeutes de 2023. Nous avions pris un certain nombre de dispositifs quand j'étais ministre de l'Intérieur, en 2013, lors de la première victoire du Paris Saint-Germain, du championnat de France, sous la Ligue, sous le règne Qatari. Il y a eu au Trocadéro des incidents particulièrement graves. Il y a eu d'ailleurs un jeune homme, si j'ai bonne mémoire, qui a été tué. C'était uniquement dans le cadre de ce quartier-là.
C'était ces scènes, notamment autour effectivement du Trocadéro. Il y avait ce bus de touristes qui avait été encerclé par des jeunes qui avaient volé les valises. C'était une scène de chaos.
Toutes les mesures que je rappelle, qu'il faut mettre, donc qui est un changement de doctrine du maintien de l'ordre, qui est une utilisation différente du renseignement, qui est l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça ne va pas régler les problèmes d'il y a deux jours ou il y a trois, quatre jours. Tout ça doit être mis en œuvre, c'est du moyen terme. Et puis ensuite, évidemment, il y a des problèmes plus lourds de la société française pour expliquer ce qui se passe dans notre société.
Pourquoi est-ce que des jeunes cassent ? Pourquoi est-ce que pour fêter une victoire, on casse ?
Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République, à l'école, dans la famille. C'est-à-dire que si on ne rétablit pas l'autorité républicaine dans ce pays, mais c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la famille. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions très lourdes et qui touchent également aux allocations familiales concernant les familles, les parents, qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en capacité de tenir leurs enfants. Enfin, des mineurs dans la rue qui cassent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est de la responsabilité bien sûr de la société, mais c'est aussi de la responsabilité
le plus jeune
parents.
Des personnes, des mineurs qui ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche à 14 ans et eux ne sont pas encore passés devant la justice. Il n'y a pas de comparution immédiate pour les mineurs, je le reprécise. Les mots que vous avez dit hier, c'est il y a un combat qu'il faut mener, c'est faire France contre la haine de la France. C'est mot pour mot faire France, l'expression qu'a utilisé Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. Il dit aussi, c'est une question, il a dit intégration, c'est aussi un mot que vous utilisez, et faire France. Mais ça passe par quoi, faire France ?
D'abord, on ne soutient pas une équipe de football, on ne soutient pas notamment le Paris Saint-Germain, qui est une formidable équipe, et en plus plutôt sympathique, hein, en brûlant la France. Donc il y a une contradiction fondamentale. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui brûlent et cassent et s'en prennent aux forces de l'ordre étaient eux-mêmes des supporters du Paris Saint-Germain. Le lendemain, sur le Champ de Mars, au moment de l'accueil du Paris Saint-Germain, les choses étaient très organisées et au Parc des Princes, ça a été une formidable fête.
Et où
fête
là, il s'agit davantage. On est davantage sûr qu'il s'agit vraiment de supporters.
Oui,
à ce
et puis les choses étaient cadrées. Organisé. Mais il y a dans ce pays depuis 25 ans. Peut-être, ça avait éclaté à la face du pays. Rappelez-vous de la France Black Blanc Beurre en 1998, après la belle victoire des Bleus. Mais trois ans après, lors d'un match amical France-Algérie, on avait sifflé la Marseillaise, on avait envahi le terrain. C'était le message absolument contraire. Donc il y a
Mais on a l'impression d'un jour sans fin, pardon.
Et les mots.
Quand vous égrenez tous ces
et
épisodes.
Les mots et les faits. Oui, parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Mais évidemment, il faut le dire. On ne protège plus ce pays, son drapeau national, son hymne, ce que nous sommes. Moi, ça a toujours été mon discours. Je me suis toujours défini. Ça m'a valu parfois dans mon camp politique, la gauche, beaucoup d'attaques. Mais la République, le patriotisme et je ne parle pas d'intégration, l'assimilation. C'est-à-dire que c'est pas.
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous distinguez intégration et assimilation ?
Moi, je suis un assimilé. Je suis né à Barcelone. Je me suis naturalisé. J'ai été député,
maire. Vous avez demandé la nationalité à quoi ? À 16 ans, 18 ans ?
À 18 ans. Donc, et j'aime ce pays parce que j'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime sa langue, j'aime ses valeurs. Tout ce qui, comme on dit, fait commun ou fait France, c'est vrai. Vous avez raison, Apolline de Malherbe. Souvent, des mots bateaux Donc,
j'ai l'impression d'entendre le même mot que vous-même, probablement, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dix ans.
Mais, et à la tribune du Parlement.
Ou François Hollande, lorsqu'il a été élu et qu'il a dit, moi, je vais réconcilier les Français.
Et donc, c'est ce discours, et parfois y compris ce disque rayé, j'en fais partie, qui crée ce sentiment d'impuissance. Mais il y a pire qu'un sentiment d'impuissance. Enfin, il y a une réalité. C'est un sentiment profond de colère. Mais il suffit pas de commenter, et y compris ce que je suis en train de dire ne va pas régler les problèmes les décisions de justice concernant les casseurs. Mais si on ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire notre discours sur l'école et la laïcité, si ensuite on ne reconstruit pas nos quartiers, le peuplement, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre dans les mêmes quartiers, dans les mêmes cages d'escalier, dans les mêmes villes, des populations qui viennent de l'immigration.
Une
là, il s'agit
de
Français.
De ghettoisation, c'est ça ce que vous dites?
Moi, j'avais parlé, ça avait fait beaucoup de bruit, il y a 15, 20 ans, d'apartheid territorial, social, ethnique et religieux. C'est tout ça qui nous pète à la gueule.
Mais est-ce que vous voulez dire aussi que ces jeunes qui, parfois, ont vécu dans ce que vous appelez des apartheid, c'est-à-dire, en fait, le sentiment de ne pas pouvoir avoir accès au centre de Paris, à un certain nombre d'écoles, d'études, d'emplois. Est-ce que c'est aussi cette colère-là qui ressort aujourd'hui? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut les excuser?
Je ne cherche jamais à excuser. Je crois dans la responsabilité collective, je crois aussi dans la responsabilité individuelle. La France, l'éducation nationale, l'école de la République offre beaucoup d'opportunités.
Est-ce qu'elle offre encore cette opportunité? Est-ce qu'elle fonctionne encore aujourd'hui?
Non, elle dysfonctionne bien évidemment aujourd'hui. C'est pour ça que le grand débat.
Encore une fois, Raphaël Glucksmann hier matin, à peu près sur le même genre de diagnostic que vous, disait longtemps on allait dans l'école privée parce que on y allait par conviction religieuse. Aujourd'hui, on y va presque pour protéger ses enfants ou pour espérer qu'ils auront une bonne éducation. Ce qui veut donc dire que l'école publique ne fait plus son boulot.
Elle ne fait pas son travail. C'est pas la faute des enseignants. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va. La massification de l'école, la numérisation de notre société, tout cela a évidemment énormément changé. Mais l'école, ça doit être l'un des grands débats, l'un des grands sujets de 2027. Mais si on continue, parce que là il s'agit de jeunes Français, si on continue à travers des politiques migratoires qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas gérées, à accumuler dans les mêmes quartiers, dans les mêmes départements, des populations pauvres et entrant en grande difficulté, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des formes de contre-culture qui s'organisent et qu'on ait de plus en plus ce type de problème.
Vous avez écouté, j'imagine, les propositions de Gérald Darmanin ou de Gabriel Attal. Gérald Darmanin, il dit qu'il faut un moratoire, faire pause sur l'immigration pendant trois ans. Gabriel Attal, lui, dit qu'il ne faut que de l'immigration de travail et durcir les conditions du regroupement familial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux propositions?
Il y a quelques années, à ce même micro, j'avais parlé devant vous d'immigration zéro. Nous n'avons pas besoin d'une immigration de travail. Alors peut-être il faut des quotas ici ou là, parce qu'on sait que dans la restauration, dans l'agriculture, on peut avoir besoin.
Donc là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec François Ruffin, par exemple?
Ou ils sont d'accord avec moi.
Vous l'avez dit avant, peut-être.
J'avais été fustigé, mais c'est pas le sujet. Mais il y a un texte qui va être adopté définitivement par le Parlement européen, par l'Union européenne, le pacte migration-asile.
Avec l'idée notamment de ces hubs, en quelque sorte.
Je suis européen. Enfin, l'Europe se dote d'un certain nombre d'outils et de moyens pour protéger nos frontières extérieures et pour pouvoir expulser plus efficacement et pour réformer aussi l'asile. Eh bien, il faut soutenir cela. Et or, je vois, y compris à gauche et même au centre, des contradictions sur ce sujet-là. On a un pacte européen qui a été, c'est vrai, porté beaucoup par la droite, mais que les sociaux-démocrates danois ou maltais soutiennent, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. Bon, donc, voilà, là, on a un outil. Donc, il faut être clair sur ces sujets-là. Mais ça, ce sont des sujets de moyen et de long terme, mais qui sont indispensables si on ne veut pas voir se répéter en permanence tous les ans, parce que j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera souvent des trophées européens. On ne va pas avoir à chaque fois, mais c'est vrai pour le football, c'est vrai à d'autres occasions. Nous l'avons vu, nous l'avons commenté il y a un instant.
Manuel Valls, qui est votre candidat?
Moi, pour le moment, aujourd'hui, je n'ai pas de candidat.
Quand vous entendez, on vient de citer les propos de Gabriel Attal ou de Gérald Darmanin, quand vous voyez Édouard Philippe, quand vous voyez Raphaël Glucksmann hier à ce micro, qui avait honnêtement un discours sur le fond pas très éloigné du vôtre, quand vous voyez les envies d'un François Hollande ou d'un Bernard Cazeneuve, est-ce que vous estimez effectivement que l'un de ceux-là pourra être le candidat, quoi? Une sorte de centre qui puisse être considéré comme un centre-gauche?
Je suis un peu désespéré face au jeu politique. Aujourd'hui, enfin écoutez, le niveau de nos déficits publics, de la dette, la situation de l'école, la violence dans notre société, le niveau de chômage qui reste toujours très élevé malgré un certain nombre de progrès, la crise politique et morale qui doit beaucoup, mais pas seulement, à la dissolution provoquée par le président de la République. Je pourrais vous dire l'état de nos territoires ultramarins, parce que je les ai toujours au cœur. Sur tous ces sujets-là devraient être au cœur, mais avec du débat, avec des solutions, des propositions, une méthode pour gouverner. Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Jean-Michel Blanquer, François Baroin, Bruno Retailleau et bien d'autres devront gouverner ensemble. Ils nous mentent, ils disent pas la vérité quand ils disent « nous allons vers une candidature unique, la gauche, la droite vont l'emporter ». Non.
Tout cela pour vous, en réalité, ont vocation à travailler ensemble.
Mais avec une méthode, en disant comment ils vont le faire, avec quel type
à
de coalition.
En se disant « on se met d'accord sur un programme et on
oui,
y va ».
Oui, et puis il faut demander un mandat aux Français, sur tous les sujets que nous avons abordés de manière concrète. Le président ou le candidat dit « je vais régler à moi tout seul les problèmes ». Ça n'est pas vrai, donc il faut... une coalition, ce qui n'a jamais été fait parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait, avec un projet, un calendrier, un agenda, une méthode. Édouard Philippe le propose, l'utilisation du référendum. Donc, il faut changer totalement. Et moi, je prendrai position quand tout ça sera sur la table.
À l'automne. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions. 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, on va prendre la direction des États-Unis. La Coupe du Monde a déjà débuté sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC et la Coupe du Monde de foot. Premier match le 11 juin, ça a déjà débuté sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Rebonjour Virginie Philpin. Virginie, dans un instant avec vous, on va parler de la sécurité autour de ce mondial. Mais d'abord, on va partir à Miami, rejoindre l'envoyé spécial d'RMC aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Martin, donc c'était Miami hier et là vous avez repris la route ce matin. Vous êtes arrivé au Texas, à Houston, au sud des États-Unis, où on risque d'avoir particulièrement chaud. Hein.
Ouais, il fait chaud, il fait très chaud, on suffoque hein, ici, même la nuit, il est bientôt 2h du matin ici et il fait encore 25 degrés. La température va pas baisser beaucoup plus bas cette nuit et ça risque de faire un petit peu bizarre aux supporters suédois, néerlandais ou allemands dont les équipes vont jouer à Houston dans les prochains jours. En fait, il va falloir qu'ils s'habituent à se faire tout le temps. Dès qu'on met le pied dehors, j'en fais l'expérience. Tous les jours, et encore, je m'en sors bien, moi, à venir avant la Coupe du Monde, puisque les températures vont continuer de grimper, parfois friser les 40 degrés ce mois-ci, m'a expliqué Suzy. Elle, je l'ai rencontrée vers 9h du matin, elle venait de finir un match de tennis, mais on avait l'impression qu'elle sortait plutôt de la piscine, tellement elle avait chaud.
L'été ne commence que le 21 juin, donc ça va être encore pire. L'été, j'arrête au plus tard à 10h30 le matin. Après, impossible. Tôt le matin et en soirée. Le reste de la journée, il fait beaucoup trop chaud. C'est épuisant. En 15 minutes, je suis trempée à cause de l'humidité. On est à 98% d'humidité ici. À Roland-Garros, la semaine dernière, c'était 48%. Ça change tout.
On est aux États-Unis, Martin. J'imagine que les Américains vont tenter de trouver des solutions magiques pour rafraîchir un peu tout le monde.
Et on mise sur des arbres ici à Houston, mais attention, des arbres 2.0, des arbres en métal. Il y en a une quinzaine qui sont en train de pousser à Houston, le long d'une avenue qui permettra de rejoindre le centre-ville depuis la future fan zone. En fait, ce sont des tiges en acier inoxydable, hautes de 4-5 mètres, avec au sommet un cercle surmonté d'un tissu qui sera posé dans les prochains jours. La promesse, baisser la température de 10 à 15 degrés pour ceux qui seront à l'ombre de ces arbres métalliques. Moi, je voulais les tester, voir ce que ça donnait, mais les travaux ont pris un peu de retard. Donc, le tissu n'est pas encore installé. Forcément, il n'y a pas d'ombre. En attendant qu'elle soit terminée, ces structures surprennent un petit peu en centre-ville.
Je sais pas ce que c'est, une œuvre d'art peut-être. Des fois, ils installent des brumisateurs, mais là, ça ressemble plus à une œuvre d'art.
Non, en fait, ce sont des arbres métalliques.
Je savais pas qu'on avait ça. J'en ai vu plusieurs en ville. C'est cool. Si ça marche, ça pourrait vraiment aider en été. Enfin, si on est juste en dessous, j'imagine.
Pas sûr que ça marche. On peut pas être nombreux là-dessus. Les Américains, on est plutôt large, vous savez.
Allez voir hein, ces longues tiges, ces arbres 2.0, parce que la mairie d'Houston a prévenu, ce sera l'un des héritages du mondial dans cette ville où rien n'était vraiment pensé jusque-là pour les piétons.
Martin, il y a 4 ans, vous aviez couvert pour RMC le mondial au Qatar. Et certaines rues étaient climatisées à l'extérieur. Ça pourrait être le cas aux États-Unis ?
Alors, c'est pas prévu, en tout cas pour le moment. Aujourd'hui, on est sur des solutions beaucoup plus artisanales, notamment ici à Houston. La climatisation, on en aura évidemment dans tous les bâtiments. Déjà, à Houston, on perd facilement 15 degrés dès qu'on franchit le pas d'une porte. Mais surtout, elle sera présente aussi, la climatisation, dans certains stades. Le Houston Stadium, par exemple, est un stade couvert, climatisé, comme quatre autres enceintes qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde.
Il y a quand même un vrai risque de coup de chaud sur cette Coupe du Monde, hein.
Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un réseau international de scientifiques pour qui un quart des 104 matchs de cette Coupe du Monde se tiendra dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes, notamment ici à Houston. Ce sera dur pour les joueurs, ce sera dur aussi pour les supporters. 1,5 million de fans attendus ici d'ici la fin du mois de juillet, du jamais vu à cette période de l'année ici à Houston.
Merci beaucoup Martin. Martin Bourdin, donc en direct depuis les États-Unis jusqu'à la fin de la semaine. Vous nous racontez l'Amérique de Donald Trump à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Retour en France.
RMC, le mondial de Virginie.
Et retour dans ce studio avec vous Virginie Fulpin. Le match d'ouverture, ce sera donc le 11 juin à Mexico, entre Mexique et Afrique du Sud. La question de la sécurité se pose, hein.
Le danger ne vient pas forcément d'où on pense. Il y a quelques mois, le chef d'un puissant cartel de la drogue avait été tué au Mexique. Il y avait eu de graves violences ensuite qui pouvaient effrayer avant la Coupe du Monde. Mais là, rien à voir. Ce sont des enseignants qui ont brûlé des maillots et forcé l'entrée d'une fan zone à Mexico. Ils manifestent pour des hausses de salaire et un changement dans la politique éducative et ils trouvent que leur cause doit primer sur le divertissement que représente une Coupe du Monde. D'accord, mais en attendant, ils auront droit à un jour de congé pour l'ouverture du mondial. Toutes les écoles mexicaines seront fermées le 11 juin.
La Colombie joue son premier match au Mexique et là, c'est le maillot de la sélection qui provoque des vagues.
Vous savez, en Colombie, il y a deux faces. Le côté rassembleur, on est tous ensemble avec Shakira et son hymne de la Coupe du Monde. On va entendre quelques fois d'ici le 19 juillet. Et puis vous avez les batailles politiques autour du maillot. Il y a une présidentielle en ce moment en Colombie. Le deuxième tour, ce sera le 21 juin en plein mondial. Et le candidat de gauche accuse son rival de droite d'utiliser le maillot national pour sa campagne. Abelardo de la Espriella est en permanence vêtu du maillot colombien. Sa femme et ses enfants aussi en meeting. Et le candidat de gauche dénonce une récupération politique. Pourtant, vraiment, récupérer le foot en politique, c'est rare, hein.
Franchement, on n'a jamais vu ça, nous. En tout cas, ici en France, jamais. Bon, allez, heureusement, il y a quand même de jolies histoires qui rassemblent autour de cette Coupe du Monde.
Oui, on est quand même là pour ça, à la base. Il y a un influenceur argentin très célèbre qui s'appelle El Scarso, qui s'est amusé à éplucher la liste de tous les joueurs de tous les pays qui participent à la Coupe du Monde. Il a regardé leur nombre d'abonnés sur Instagram et il a trouvé le moins connu de tous. Le défenseur néo-zélandais Tim Payne, parce qu'il a moins de 5000 followers. El Scarso a lancé une campagne virale pour en faire une star.
Vamos a conocer a Tim Payne. Si no lo conoces, él es Tim.
Alors, je disais 5000 followers, ça c'était avant la campagne d'El Scarso, parce qu'en quelques jours, Tim Payne est passé à 4 millions de followers. Bon. Allez, on va être un petit peu chauvin. 4 millions, c'est bien, mais on est encore loin des 130 millions de Kylian Mbappé. Hein.
Voilà. Allez, merci, Virginie. La Coupe du Monde, c'est à suivre en intégralité sur RMC. Vous ne raterez rien. Grâce à notre studio délocalisé aux États-Unis, ce sera aux abords du stade où aura lieu la finale le 19 juillet à New York. Et c'est évidemment dès maintenant sur RMC. Dans un instant, les GG. Alain Marchal vient d'entrer dans ce studio. Salut, Alain. Quel est le programme?
Le suspect numéro 1 dans l'affaire Liana, déjà visé par une plainte pour viol au cours de l'été 2025, jamais entendu par la justice. Ça pose quand même des questions et un problème. À tout de suite avec les grandes gueules.